VOA Afrique, les infos. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
18h30 à Bamako, 19h30 à Kinshasa. Bienvenue dans cette édition du jeudi 9 février 2017. Au sommaire ce soir, de nouveaux affrontements en Centrafrique entre factions rivales de l'ex-Séléka.
Les attaques avaient commencé sur Bakala et là la coalition approche.
Quel défi pour la Somalie au lendemain de l'élection présidentielle.
Des sommes considérables ont été injectées et finalement on se retrouve avec des troupes qui sont pas ou peu payées.
Et puis Jacob Zuma sous pression alors qu'il doit prononcer ce soir son discours annuel à la Nation. Également dans un peu plus de 10 minutes l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Ce soir, dans l'actualité africaine, en Centrafrique, au moins 20 combattants ont été tués dans la localité aurifère de Dassima, à une quarantaine de kilomètres de Bambari. Des affrontements ont éclaté samedi entre deux factions rivales de l'ex-rébellion Séléka. Le point avec Yves Van Loo, représentant du CICR à Bambari.
On n'a pas le bilan, mais il y a une coalition qui est menée par deux groupes armés hein, qui sont issus de l'ex-Séléka. C'est le FPRC et le MPC qui ont décidé en fait de déloger le responsable d'un autre groupe armé qui est l'UPC. L'UPC qui est basé qui a un siège à Bambari. Et en fait, les combats ont commencé depuis fin novembre. Sur la haute coteau, ils ont également été étendus sur la Waka. Donc les attaques avaient commencé sur Bakala et là la coalition approche. Donc le combat que vous avez entendu à Dassima, c'est en fait la suite des combats qui ont commencé fin novembre et c'est la coalition qui continue apparemment d'avancer.
Yves Van Loo, le représentant du CICR à Bambari en Centrafrique. Moins d'un mois après sa prestation de serment à Dakar, le président gambien Adama Barrow annonce la prolongation de la mission militaire de la CEDEAO pour au moins 3 mois. Objectif, aider à renforcer la sécurité dans le pays. Abdourahmane Dia.
Cette déclaration sur la prolongation du mandat de la CEDEAO en Gambie a été annoncée par la présidence à Banjul. Il y a quelques jours, le commandant sénégalais de cette force a annoncé une réduction progressive des troupes ouest-africaines, forte de 4000 hommes au début de la crise. Le nouveau président tente d'imprimer sa marque après le départ de Yahya Jammeh. Il a annoncé une réforme de l'Agence nationale du renseignement, accusée par les défenseurs des droits humains d'avoir commis de nombreuses exactions sous l'ancien régime. M. Barrow a aussi confirmé à une délégation de l'Union européenne reçue à Banjul que son pays n'allait plus se retirer de la Cour pénale internationale, contrairement à la décision de l'ex-chef de l'État. La Gambie devient, avec le Sénégal et le Nigeria, l'un des rares pays à prendre le contre-pied de l'Union africaine qui a adopté une résolution pour encourager les pays membres à quitter la CPI qu'elle accuse de partialité envers les dirigeants du continent.
En République démocratique du Congo, l'organisation des obsèques de l'opposant congolais Étienne Tshisekedi à Kinshasa se complique et prend un tour polémique après une succession d'exigences présentées par son parti et jugées inadmissible par le gouvernement. Opposant à tous les pouvoirs depuis 1981, Tshisekedi est mort le 1er février à Bruxelles. Lundi dernier, le retour de sa dépouille avait été annoncé pour la fin de la semaine. En Somalie, des milliers d'habitants de Mogadiscio ont célébré dans l'allégresse l'élection la veille de leur nouveau président, Mohamed Abdoulali Mohamed dit Farmadjo. Cet ancien premier ministre jouit d'une vraie popularité auprès de nombreux Somaliens, y compris de la diaspora, et son élection par les parlementaires marque une transition pacifique. Le pays fait face néanmoins à de nombreux défis, nous y reviendrons dans la seconde partie de cette édition. La justice kényane a déclaré aujourd'hui nulle et non avenue la décision du gouvernement de fermer le complexe de réfugiés de Dadaab, le plus grand au monde, affirmant que Nairobi a violé ses obligations internationales en ordonnant le rapatriement dans leur pays de réfugiés somaliens. Jacques Aristide.
Nul et non avenu, ainsi en a décidé le juge John Mativo en se prononçant sur une plainte déposée par la Commission nationale kényane des droits de l'homme et l'ONG kényane Kituo Cha Sheria. La décision du gouvernement de viser spécifiquement les réfugiés somaliens est un acte de persécution d'un groupe illégal, discriminatoire et de ce fait inconstitutionnel, a déclaré le juge Mativo pour motiver sa décision. Ce camp hébergeait 350 000 réfugiés l'an dernier, selon l'ONU, 250 000 d'après le Kenya, qui voulait à l'origine le fermer en novembre dernier, affirmant qu'il est utilisé par les islamistes somaliens pour engager des recrues et lancer des attentats en territoire kényan. Le gouvernement a annoncé dans un communiqué sa volonté de faire appel, reprenant son argument sécuritaire. Notre principale responsabilité est de garantir la sécurité de tous les Kényans. Le camp a perdu sa vocation humanitaire et est devenu un havre pour le terrorisme et les activités illégales, dit-il. L'ONG Médecins Sans Frontières appelle les autorités kényanes à respecter la décision et à considérer urgemment d'autres alternatives en faveur des réfugiés.
Le président sud-africain Jacob Zuma, sous le feu continu des critiques de l'opposition, doit prononcer ce soir son discours annuel à la nation devant le Parlement au Cap, où plus de 400 soldats ont été appelés en renfort pour assurer sa sécurité. Arzuma Compaoré.
Nous allons demander des comptes au pouvoir, a prévenu le porte-parole du parti de gauche radicale des combattants pour la liberté économique, Mbuyeseni Ndlozi. L'Alliance démocratique principale, parti d'opposition, a évoqué une violation de la Constitution. Selon Daniel Silk, analyste indépendant interrogé par l'AFP, l'ANC est moins sûr de lui et apparaît comme excessivement paranoïaque. De l'autre côté, la présidente du Parlement, Baleka Mbete, dit que les Sud-Africains en ont assez de tout ce cinéma, ajoutant que les forces de sécurité doivent faire leur travail. Nous sommes dans un état... pas une république bananière. Depuis 2 ans, le traditionnel discours du président de la nation est le théâtre de manifestations à l'extérieur du Parlement, mais aussi au sein de l'Assemblée elle-même. Les alentours du Parlement étaient quadrillés par des barbelés, alors que les supporters des différents partis commençaient à se rassembler.
En Tunisie, l'ancien président Zine El Abidine Ben Ali et son épouse Leila Trabelsi, déjà condamnés à de multiples reprises par contumace, ils viennent d'écoper chacun de 10 ans de prison pour corruption administrative et financière. Ben Ali et son épouse vivent en exil à Jeddah, en Arabie Saoudite.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici, aux États-Unis, le président Donald Trump a promis, en présence de son nouveau ministre de la Justice, une nouvelle ère dans la lutte contre la criminalité et la menace terroriste. Depuis le bureau ovale, le président Trump a dressé un tableau extrêmement sombre des menaces pesant sur lui, selon lui, sur l'Amérique. Il a affiché sa volonté de casser les cartels criminels qui se sont répandus dans le pays et, selon lui, qui détruisent notre jeunesse. Il a également promis une annonce, selon ses propres termes, phénoménale, sur la réforme des impôts d'ici 2 à 3 semaines. L'Union européenne semble prête à un rapprochement commercial avec la Chine. Dans un discours consacré à l'Empire du Milieu, Cecilia Malmström, la commissaire européenne au commerce, a fustigé ceux qui, je la cite, « ferment leurs portes » ou utilisent le commerce comme arme, allusion à peine voilée à la rhétorique protectionniste du nouveau locataire de la Maison-Blanche. En réponse, a-t-elle poursuivi, l'Union européenne doit renforcer ses relations avec d'autres pays. La Russie et la Turquie renforceront leur coordination militaire en Syrie après la mort de 3 soldats turcs tués accidentellement dans un raid de l'aviation russe dans le nord du pays. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le Kremlin. En Israël, 6 personnes ont été blessées quand un Palestinien a ouvert le feu et attaqué des passants au couteau sur le marché de Petah Tikva, près de Tel Aviv. L'assaillant, âgé de 19 ans et originaire du nord de la Cisjordanie occupée, a été arrêté. C'est ce qu'a confirmé la police qui a parlé d'actes terroristes. En Allemagne, 6 militants d'extrême droite, dont un membre du parti NPD, ils ont été condamnés à des peines de prison ferme pour avoir incendié un futur centre de réfugiés en 2015, année où le pays a accueilli près d'1 million de demandeurs d'asile. En France, une explosion s'est produite ce matin à la centrale française de Flamanville, mais dans une zone non nucléaire. Le groupe EDF conteste le terme « explosion » mais évoque un incident technique significatif. Aucun blessé grave n'est à déplorer, mais cet incident a relancé le débat sur la sécurité du parc nucléaire national. Aux Pays-Bas, le parquet néerlandais a requis près de 11 ans de détention pour un Néerlandais de 38 ans accusé d'avoir contraint par chantage des dizaines de jeunes filles à travers le monde à s'exposer sur Internet dans des actes sexuels. Le Néerlandais avait été interpellé en 2014 après que Facebook eut averti la police néerlandaise qu'un sextorqueur opérait depuis les Pays-Bas. La sextorsion est une escroquerie visant à faire chanter quelqu'un en obtenant par la ruse des photos pornographiques, soit pour les monnayer, soit pour en obtenir d'autres. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et sur voafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco présentée par Morgane Guiriac.
Le salaire minimum à 244 euros, c'est pour bientôt en Afrique du Sud. Les syndicats et le gouvernement sont parvenus à un accord. La mesure devrait entrer en vigueur en mai 2018, d'après les autorités citées par Jeune Afrique. L'objectif est de relancer la croissance du pays et de limiter les grandes grèves, notamment dans le secteur minier. Les tensions entre le gouvernement et les géants du secteur minier sud-africain sont d'ailleurs palpables durant la conférence mondiale Mining Indaba au Cap. Face aux régulations fluctuantes et aux fermetures de sites que les compagnies minières jugent arbitraires, elles ont affiché leur ras-le-bol au cours de la rencontre de cette semaine. Les perspectives d'investissement sont vraiment négatives, affirme le groupe Sinbanye, interrogé par l'AFP. Compagnie qui poursuit le gouvernement sud-africain pour la fermeture d'une de ses mines de platine après un accident mortel en septembre. Et enfin, chasser les communautés locales de leurs terres peut s'avérer coûteux pour les investisseurs en raison des grèves et violences que déclenchent les évictions. Telle est l'estimation réalisée par Rights and Resources Initiative et TMP Systems. Ces militants rappellent que les expulsions forcées par les sociétés étrangères représentent 2/3 des litiges de propriété foncière en Afrique.
Place à la page sport, ce soir avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Claire.
Le TP Mazembe est en préparation.
Afin de préparer la finale de la Super Coupe de la CAF, qui l'opposera au Mamelodi Sundowns, ce sera le 18 février à Pretoria, eh bien, le tout-puissant Mazembe va disputer 3 matchs amicaux face à des équipes du Katanga. Les vainqueurs de la Coupe de la Confédération affronteront demain l'AS New Soldier, samedi Lubumbashi Sport et mardi la jeunesse sportive du groupe Bazano. Ces 3 rencontres auront lieu sur la pelouse de Kamalondo.
L'UEFA veut se tailler la part du lion à la Coupe du Monde 2026.
L'instance du foot européen a pris acte de l'élargissement du mondial à 48 équipes et réclame maintenant la présence de 16 équipes européennes, une dans chaque poule. Le président Alexander Seferin a expliqué qu'il était réaliste de demander 16 poules, avec comme condition supplémentaire qu'une équipe européenne figure dans chaque groupe. Selon une source de la FIFA, l'Europe passerait donc de 13 à 16 places, l'Afrique principale bénéficiaire de 5 à 9 places et l'Amérique latine de 4,5 à 6,5, la différence avec une place de barragiste.
Par ailleurs, l'UEFA veut limiter à 3 le nombre de mandats de ses dirigeants.
Annonce également de son président Alexander Seferin. Cette réforme doit maintenant être validée lors du 41e congrès de l'UEFA. Ce sera le 5 avril prochain à Helsinki. Jusqu'ici, la seule limitation pour diriger l'UEFA était celle de l'âge. Il ne fallait pas excéder 70 ans révolus.
Mauvaise nouvelle en NBA pour le joueur camerounais de Philadelphie.
Le pivot Joel Embiid, qui n'a joué qu'un match en 3 semaines, ne participera pas aux 2 prochaines rencontres des Sixers. Embiid est touché au genou gauche. Embiid a fait ses débuts en NBA en octobre dernier. Il fait figure à 22 ans de l'une des principales révélations de la saison, avec des moyennes de plus de 20 points par match et près de 8 rebonds par match.
Et toujours en NBA, les résultats de la nuit.
Les Knicks de New York se sont inclinés face aux Clippers 119-115 lors d'une soirée sulfureuse au Madison Square Garden, tandis que Miami a enchaîné avec une 12e victoire de suite à Milwaukee 106-88.
Merci Nicolas.
«
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, place au dossier du jour. En Somalie, les parlementaires ont élu hier un nouveau président. Mohamed Abdouli Mohamed, dit Farmadjo, suscite joie et espoir à Mogadiscio. Mais tout le monde ne partage pas l'enthousiasme ambiant, soulignant notamment la délicate formation du gouvernement et sa majorité pour gouverner. Pour comprendre les défis qui attendent le nouveau président, Eric Manirakiza a joint le chercheur du CNRS spécialisé dans les conflits armés en Afrique subsaharienne, Roland Marchal.
D'abord l'attitude vis-à-vis de la famine, on a tendance à l'oublier, mais la situation humanitaire est extrêmement sérieuse dans le nord et le centre de la Somalie. Les relations avec les pays voisins, lorsqu'il était Premier ministre, le nouveau président avait eu des mots très durs sur la force de l'Union africaine, sur les pays, les ingérences des pays de la région. Saura-t-il négocier une autre politique en accord avec ces pays-là? Quelles seront ses relations avec la communauté internationale en sachant combien Hassan Cheikh avait bénéficié au début d'une période de grâce? Donc toutes ces questions sont posées, il faut encore du temps, il ne faut pas oublier que gérer un pays, c'est le travail d'une équipe, c'est pas simplement le travail d'un homme.
Les Chebab restent une force présente et il doit créer une armée républicaine pour y faire face. Est-ce que vous pensez qu'il en a les moyens?
Si on regarde les problèmes qui ont affecté la possible création d'une armée nationale en Somalie, celui dont on parle le plus, c'est évidemment la corruption. C'est-à-dire que des sommes considérables ont été injectées et finalement on se retrouve avec des troupes qui sont pas ou peu payées, eu égard aux sommes mobilisées. Mais il y en a d'autres. Par exemple, le fait que les États fédérés n'ont pas de conception, je dirais, de l'armée nationale. Chacun veut développer des forces militaires qui sont en nombre extrêmement important. Personne n'a les moyens de financer de telles armées. La troisième chose, il va falloir aussi définir l'attitude de la communauté internationale, parce que pour l'instant, il y a 6 ou 7 acteurs internationaux qui veulent jouer un rôle dans le secteur de la sécurité et qui ne se coordonnent pas dans leur action, c'est-à-dire que chacun fait un peu ce qu'il veut, sans aucune préoccupation d'homogénéiser la politique de la communauté internationale vis-à-vis de l'armée somalienne, ce qui fait que les Somaliens, évidemment, sont perdus et, d'une certaine façon, sont devenus très cyniques sur ce système d'aide.
Il y a la question de Mogadiscio qui ne trouve pas de solution sur son statut pour pouvoir fédérer toute la Somalie.
Il y a de très nombreux défis pour le nouveau président. Si vous voulez, il y a celui-là. Il y a évidemment la question du Somaliland, hein, dont personne ne veut parler parce qu'on ne sait plus très bien quoi faire. Il y a la question de la capacité de survivre des structures fédérales qui se sont proliférés, mais d'une certaine façon n'ont absolument pas les moyens financiers de se maintenir à flot. Qui va payer pour ces structures-là?
Roland Marchal, chercheur du CNRS spécialisé dans les conflits armés en Afrique subsaharienne.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Dans le nord du Cameroun, les djihadistes de Boko Haram continuent les attaques suicides en représailles aux frappes de la force régionale. Il se passe rarement une semaine sans que le groupe ne fasse sauter des bombes. Pour protéger les communautés, le Cameroun renforce les capacités des groupes locaux d'autodéfense qui aident les militaires. Moki Edwin Kinzeka, notre correspondant, est parti à leur rencontre dans ce reportage traduit par Morgane Guiriec.
Près de la frontière nigériane, les 200 recrues du groupe d'autodéfense sont accueillis en musique. Miji Yawa Bakari, gouverneur de la région du Grand Nord, a fait le déplacement.
Sur très haute instruction du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui nous a demandé de descendre sur le terrain, transmettre ses félicitations et ses encouragements à vous, membres des comités de vigilance, ainsi qu'aux chefs traditionnels ici présents, pour votre courage et votre détermination dans la lutte contre l'insécurité dans le département de Mayo-Tchanaga.
Le gouverneur a équipé la milice d'autodéfense de Mora de motos, de bicyclettes, détecteurs de métaux. Il leur a aussi fourni de l'argent. Tel est Paul, dirige le groupe.
Ils sont presque déjà finis et on est prêt à leur finir encore. Déterminés à barrer la rue.
Il n'empêche, beaucoup se demandent jusqu'où pourra-t-on compter sur les milices. L'an dernier, des membres de groupes d'autodéfense soupçonnés d'être infiltrés ont été arrêtés. Pour les autorités, ces groupes d'autodéfense font un travail indispensable qui sauve des vies. Ils connaissent le terrain et partagent des renseignements avec les militaires. Ce soir, un vent fort souffle sur le village. 80 vigiles armés de machettes, d'arcs, de flèches, de couteaux et de lances sont réunis pour prendre la relève. L'armée protège la frontière et le groupe d'autodéfense s'assure qu'aucun étranger n'entre dans le village. D'après Kadil Ousmanou, les miliciens sont dotés de téléphones cellulaires pour prévenir les militaires dès qu'ils voient des suspects.
On ne travaille pas pour quelque chose, on travaille pour notre bien de village.
Joseph Manaouda, chef du village de Mora, estime que grâce aux vigiles, la population peut dormir la nuit.
Les comités de vigilance ont rattrapé plusieurs kamikazes dans la zone de Mayo-Moscota, par exemple, Mozogo. Ils ont attrapé ceux qui voulaient entrer et pour les mettre à la disposition des forces de maintien de l'ordre. Du côté montagne, ils les ont bloqués effectivement avec des flèches, des moyens rudimentaires, mais ils ont pu maîtriser beaucoup d'adeptes de Boko Haram.
Des dizaines de miliciens ont été tués dans le nord du Cameroun. Sali Ali Mahamat a échappé de justesse à la mort. Âgé de 44 ans, il avait été affecté aux îles du lac Tchad avec ses deux frères. D'après Sali, ses deux frères ont attaqué le terroriste et l'armée est venue à la rescousse. Il s'en est tiré avec une balle dans la main droite et a été soigné gratuitement dans un hôpital public.
Washington Forum ce jeudi, la face cachée de Boko Haram. L'insurrection meurtrière du groupe islamiste se poursuit du Nigeria au pays voisin. De la secte islamiste non violente à ses débuts, à sa métamorphose en un mouvement violent. Quel est l'envers du décor qui forme ses rangs? Comment fonctionne-t-il? En exclusivité, des images obtenues par la VOA. Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Et je vous donne rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, avec Tatiana Mosso et ses invités. Pollution de l'air en Afrique. Pour la première fois, l'OCDE fait état de 700 000 morts par an sur le continent suite aux effets de cette pollution. L'impact de cette pollution de l'air est donc dévastateur sur la santé des Africains. Pour comprendre l'état de la pollution de l'air en Afrique, Dili Diko, adjoint à Paris, Henri-Bernard Solignac-Lecomte, chef de la division Afrique, Moyen-Orient et Europe à l'OCDE.
Ce que cette nouvelle étude montre, c'est qu'on a une estimation aujourd'hui de ce que représente la pollution de l'air en matière de morts prématurées. On considère, d'après ces calculs, qu'environ 700, un peu plus de 700 000 personnes par an meurent de manière prématurée à cause de la pollution de l'air, alors que c'est un peu moins de 540 000 pour le nombre de victimes dues à la pollution de l'eau, 275 000 pour la malnutrition et à peu près 400 000 à cause du manque d'assainissement. Donc en fait, c'est un phénomène qui est beaucoup plus mortel que la malnutrition dont on parle beaucoup plus souvent. Il est temps qu'on se préoccupe véritablement de l'impact de cette pollution de l'air.
En termes de politique de santé et d'action gouvernementale, quelles sont les perspectives pour la lutte contre la pollution et ses effets en Afrique?
C'est un problème très compliqué, notamment pour les pays africains, parce qu'il faut bien comprendre qu'ils font face aujourd'hui à ces problèmes, en même temps qu'ils font face à des problèmes sociaux importants, de protection sociale, d'accès à l'éducation, mais aussi des problèmes économiques de création d'emplois, de création de valeurs. Et contrairement aux pays de l'OCDE, pays riches, les pays africains aujourd'hui n'ont pas le luxe d'aborder ces problèmes les uns après les autres, ils doivent tout faire en même temps. Alors ça veut dire en matière de transport public, parce que c'est beaucoup les voitures qui sont à l'origine de cette pollution urbaine, c'est pas tellement l'industrie parce qu'elle n'est pas encore très présente dans la majorité des pays africains. Il faut absolument développer dès maintenant des systèmes de transport public de masse au lieu de laisser les gens dépendre trop rapidement de la voiture individuelle ou des petits bus en suivant le modèle, je dirais, des économies aujourd'hui développées, parce que ça ce serait absolument catastrophique en termes d'augmentation de la pollution. Il faut également donner aux foyers des manières de s'éclairer et de se chauffer qui ne soient pas les façons traditionnelles en brûlant des excréments d'animaux, en brûlant du bois, en brûlant du charbon ou en utilisant des lampes à pétrole, parce que cette pollution domestique, elle est également la source de beaucoup de morts prématurées.
Et du côté des pays riches, y a-t-il des mesures à prendre pour lutter contre la pollution en Afrique ?
Mais il y a aussi des mesures que peuvent prendre les pays riches. Il y a récemment un rapport d'une organisation qui a révélé le scandale de ce qu'on appelle le « dirty diesel », c'est-à-dire le fait que des traders européens vendent en Afrique des carburants qui ont une teneur en soufre qui est de plus de dizaines ou de centaines de fois, parfois, en excès de ce que les standards européens permettent, c'est-à-dire qu'on vend sciemment aux pays africains des carburants dont le potentiel mortel pour la population est extrêmement élevé. Donc ça, il y a déjà des mesures qui ont été prises, mais c'est aussi un rôle que les pays riches peuvent jouer, c'est d'empêcher ce genre d'exportation de carburant particulièrement dangereux.
Henri Bernard Solignac-Lecomte, chef de la division Afrique, Moyen-Orient et Europe à l'OCDE.
VOA Afrique en direct de Washington.
Le décret du président américain Donald Trump visant à suspendre temporairement l'immigration en provenance de 7 pays majoritairement musulmans est toujours devant 3 juges de la Cour d'appel de Californie. Et le débat sur la pertinence de ce décret ne laisse pas indifférents les Européens. Selon un sondage réalisé par un institut britannique, 55% d'Européens se rangent du côté de Donald Trump. Pourquoi tant de soutien en Europe ? L'analyse de Kamel Béji, spécialiste des questions d'intégration des migrants à l'Université Laval du Québec.
Les tendances populaires sont souvent, qu'on le veuille ou pas, un peu plus émotives, moins fondées objectivement et scientifiquement. Elles se basent sur ce qui se passe, ce qu'ils lisent dans les journaux, ce qui se passe au niveau politique. Il suffit qu'il y ait une personne migrante qui a fait un crime quelque part et puis l'opinion change complètement. Mais la réalité sociale et économique et démographique dans les pays développés, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, fait que incontestablement, ou au Canada même, ces pays-là ont besoin de main-d'œuvre immigrante.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une certaine scission entre l'élite qui jusque-là a critiqué ce projet du président Trump et un peu le public en Europe ?
Ah oui, absolument. Cette scission dont vous parlez, elle est basée aussi sur la non-connaissance des réalités et je me permets même de dire, des fois même l'élite politique comme M. Trump ou ceux qui le suivent ne sont pas au courant de l'importance de l'immigration au niveau des enjeux économiques et sociaux. Maintenant, il y a derrière ça tout un débat idéologique, qu'on le veuille ou pas, c'est-à-dire d'aller vers l'extrême droite, à l'extrême gauche.
Mais est-ce que ce n'est pas forcément une bonne chose pour les partis d'extrême droite en Europe quand on voit qu'il y a des élections qui vont venir en Allemagne et en France notamment ?
Absolument, qu'on le veuille ou pas, cette tendance-là vers ce qu'on peut appeler sans gêne l'extrême droite, maintenant, elle est dessinée. Ça dépend comment les partis politiques vont réagir avec responsabilité ou pas. C'est-à-dire, si on va trouver des partis politiques qui vont encore instrumentaliser la question de l'État islamique et ce qui se passe en Syrie, et puis la question de l'immigration négativement, c'est sûr, les populations sont facilement manipulables, qu'on le veuille ou pas.
Est-ce que les partis qui sont en faveur de l'immigration ne devraient pas, dans ce cas, un peu réadapter leur discours pour contrer cette attitude anti-immigration ?
Et ils le font, les partis, je pense, ils le font dans quelques discours. Mais là, vous avez vraiment raison. J'ai rarement entendu un ministre dire s'il n'y a pas d'immigration, c'est une baisse de l'immigration, on aura vraiment une baisse du PIB. On aura une baisse au niveau des commandes. On aura moins de place sur l'échiquier international au niveau de la mondialisation et des échanges internationaux. On aura moins de compétences qui voudront venir chez nous. On manque de compétences. Les questions de pénurie, de rareté de main-d'œuvre vont se multiplier. Les régions vont se vider. Ça, on ne le dit pas assez, je pense.
Kamel Béji de l'Université Laval du Québec, au micro d'Abdourahmane Dia. C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Lionel Gaïma. À la console, Souleymane Tarawali. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, un seul site internet, voaafrique.com, où on maintient la conversation sur notre page Facebook. Likez, réagissez ou commentez les actualités. Tout de suite, retrouvez l'émission Washington Forum, présentée par Tatiana Mosso. Aujourd'hui, un numéro spécial consacré au groupe djihadiste Boko Haram au Nigeria.
N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM, Bamako. Raga FM, Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.